de notre rendez-vous avec l'Éternel, Dieu des armées, l'Éternel qui nous a créés à son image. Nous lui rendons grâce et nous lui bénissons. Nous allons demander à notre sœur Sophie Tibola de bien vouloir recommander ce moment entre les mains de notre Dieu et que seul le Saint-Esprit puisse diriger et canaliser ce moment de méditation. Prions avec notre sœur Sophie.
Prions. Éternel notre Dieu, nous voici encore aujourd'hui devant ta face. Seigneur, tu nous as fait grâce ce soir. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains, recommander ces moments entre tes mains, afin que toi seul, tu puisses disposer nos cœurs à écouter ta parole. Recommandons aussi ton serviteur que tu t'es choisi ce soir, Éternel, pour dispenser cette parole, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse être avec lui, afin qu'il puisse dispenser, Seigneur, ta parole avec sagesse, sans rien retrancher ni rien ajouter, Seigneur. Dispose nos cœurs, tendre Père, ce soir. Nous ne venons pas faire des sketchs ou faire de l'apparence, mais nous venons sincèrement écouter ta parole. Nous disposons aussi nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu puisses nous montrer ta parole, nous montrer les chemins à suivre et nous aider à pouvoir pratiquer ta parole. Nous voici, Seigneur, disposés à t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Mets ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions aussi la pratiquer dans les jours à venir. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, sœur Sophie, pour la prière. Nous demanderons à maman Christine de bien vouloir nous lire le passage du jour qui est dans Psaume 8, versets 1 à 10. Ce psaume vient avec la question 1, 2 et 3. De qui ou de quoi parlent ces versets? Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Maman Christine? Allô, Maman Christine?
Ben, je peux lire.
Oui, bien aimé.
L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au désir des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer séance à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Amen. Merci beaucoup, frère Thomas, pour la lecture. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine thématique sur l'adoration. Les mots hébreux les plus souvent utilisés dans l'Ancien Testament pour adoration signifient se prosterner et indiquent une humble soumission comme celle d'un serviteur envers son maître. Genèse 33, 3. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est le plus employé, tono désigne un acte de respect. C'est la même idée qui découle lorsqu'on parle de l'adoration de l'homme pour Dieu. Nous nous humilions devant notre Créateur avec une attitude de profond respect à Dieu pour l'honorer, le servir et le craindre en vertu de ce qu'il est lui. Il est en lui-même et l'expression de l'admiration de sa majesté. L'adoration va bien au-delà de ce que nous faisons, de ce que nous faisons pendant le culte communautaire. Ce n'est pas que des beaux chants et une musique émouvante, ce qui serait une adoration extérieure. L'adoration n'a rien à voir avec le style, le volume ou la vitesse d'un chant. Elle n'est pas la prière, des demandes, ni des actions de grâce pour les bienfaits reçus, mais elle s'adresse à quelqu'un que l'on connaît. Amen. La vraie adoration qui soit agréable à Dieu est le don total, complet et joyeux de la créature à son Créateur. Elle est l'abandon de nos lèvres, de nos cœurs et de nos vies. Elle s'exprime à travers toute notre vie, une vie de sainteté. C'est lui faire confiance, l'aimer, lui obéir, aider notre prochain, etc. Elle n'est pas limitée au bâtiment religieux. Elle doit avoir la priorité sur toute autre chose. C'est une affaire d'un cœur en feu pour Dieu. C'est un acte entièrement désintéressé. Nous n'adorons pas pour recevoir de Dieu quelque chose. La responsabilité de toute créature intelligente, le premier but de notre vie, c'est d'adorer Dieu. Apocalypse 4, 10 à 11. Les anges l'adorent, les saints l'adorent, et bientôt, tout sur la terre se prosternera devant lui. Les pères cherchent des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. Voilà un peu les commentaires faits par notre bien-aimé Lily Claire René de l'île Maurice sur l'adoration. Et ces passages des psaumes 8, 1 à 10 nous amènent dans cette intensité d'adoration. Nous adorons Dieu de ce qu'il est et non parce que nous sommes capables, non. De ce qu'il a fait, parce qu'il est le Tout-Puissant, il a créé toutes choses. Le ciel est à lui. La terre est à lui. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous devons entrer dans ce moment d'adoration, les louer et l'exalter. Je vais donner la parole à l'Assemblée afin que nous puissions partager ce que le Saint-Esprit a déposé en nous en méditant ces passages riches sur pourquoi, comment adorer le roi des rois, le créateur de toutes choses. Merci bien-aimés. La parole est à l'Assemblée. Nous avons 2 minutes pour le faire et nous pourrons revenir autant de fois tant que le Saint-Esprit dépose des vérités et des richesses en nous pour notre édification commune. Merci beaucoup. Qui voudrait briser la glace et être le premier? Ok. Oui. Merci beaucoup. Je commence avec le pasteur José des États-Unis. Pasteur, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Frère Gaston, bien-aimé, nous allons voir ce qui est dit, verset 2, mais je jette rapidement un coup d'œil au verset 1er pour placer un peu notre psaume dans le recueil de David. Ce psaume, comme nous le voyons au premier verset, appartient au recueil de David. Et ce chant est accompagné sur un instrument musical qu'on appelle la harpe de Gath. Gath, ça n'appartient pas au peuple d'Israël, mais ça appartient aux Philistins. Nous savons que le géant Goliath, il est de Gath. Donc l'instrument est originaire.
Yo, oh là là.
Originaire de.
Attends, cela.
De un pays étranger, mais on l'utilise aussi en Israël. C'est comme nous, en Afrique, la guitare est importée, mais nous l'utilisons. Nous utilisons des guitares à l'église pour honorer notre Dieu. Et au verset premier, la première partie, celui qui a écrit s'adresse au Seigneur. Dans ma version, il est notre maître. Le Seigneur est notre maître. C'est-à-dire, nous dépendons de lui. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. Et comme nous verrons, c'est tout l'univers qui est cité dans ces psaumes pour montrer que tout dépend de lui, de notre maître. Et comme tel, j'ai le devoir de l'adorer parce que il est mon maître. Je tire mon existence de lui. Tout ce que je lui appartienne. Donc, il est mon maître et je dépends de lui. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. L'Éternel est mon maître et je dépends de lui. Voilà pourquoi je dois l'adorer et l'exalter. Merci beaucoup, Frère Thomas. Vous avez la parole, bien-aimé.
Oui, le deuxième verset, la magnificence de Dieu qui a étendu les cieux, sa majesté sur les cieux. Je me rappelle de l'enseignement au camp biblique qui s'était tenu ici, le deuxième camp biblique ici, quand le pasteur José des États-Unis nous a enseigné que comment Dieu a créé toute la terre et le ciel et tout ça. Ensuite, il a amené l'homme après pour qu'il le gère. Je vois la magnificence de Dieu dans la création. Et parfois, ça nous échappe. Nous sommes tellement occupés de notre petit monde. Nous ne regardons pas la grandeur. Les gens quittent le monde pour aller au Kenya voir ceci, au Congo. Et que ça, je me rappelle, en 1994, j'ai recevé les réfugiés Hutu au Congo et j'ai voyagé souvent de Goma et puis aller à Bukavu pour voir les camps là-bas. Mais quand on est dans l'avion et on voit les montagnes, la verdure, les vallées, les îles, et on voit la splendeur des parcs à Goma et consorts, c'est difficile de résister à l'idée de dire, de croire d'abord que Dieu existe de par la nature et de constater la grandeur et la magnificence de Dieu. Donc je suis dans l'admiration de la création de Dieu par rapport à sa grandeur. Et parfois, ça nous manque de regarder, d'aller dans des parcs, voir un peu la nature et constater que Dieu est très grand. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas. Dieu était très grand. Si nous regardons la création, il y a que l'admiration qui peut sortir du fond de notre cœur pour adorer l'Éternel Dieu des armées, de ce qu'il a fait, le ciel, la terre, et voyons comment il soutient cette voûte céleste, il tient cette voûte pour nous, pour ses enfants. Nous l'adorons non pas pour être protégés et sauvés, mais nous l'adorons, nous l'exaltons pour lui exprimer notre reconnaissance. Quand nous voyons cette nature, quand nous voyons ces montagnes, ces lacs, la verdure, nous regardons tout ce qui se passe, la beauté des fleurs, des oiseaux, des animaux, comment il prend même soin de ces animaux. Il connaît tous les noms de ces animaux et il a fait ces animaux-là pour un but, au service de l'homme. Et il n'y a que l'admiration et la magnificence de l'Éternel, Dieu des armées. Oui, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et au verset 10, ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est pour montrer en quelque sorte qu'il est l'alpha et l'oméga. Et que ce nom, c'est un nom de puissance. C'est le nom qui nous donne, c'est un nom de vie. Parce que quand nous voyons la magnificence de Dieu, nous regardons les étoiles, nous regardons le soleil, nous voyons la puissance de la création de l'Éternel Dieu des armées. Et à ce moment-là, nous ne pouvons que tomber à genoux, élever nos mains pour l'adorer, le magnifier, parce que tout ce qu'il a fait, il a fait avec puissance, avec sagesse, avec amour, mais tout cela pour que l'homme puisse en jouir et pour que l'homme en soit le bénéficiaire. Il est magnifique et merveilleux, ce Dieu. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci au père Gaston pour la parole. Moi, j'arrive au verset 3. Nous connaissons bien comment la nature loue Dieu, comment les oiseaux louent Dieu. Mais on nous montre, même quand de nouveaux-nés crient, ils sont aussi en train de faire jaillir la louange. Et cette louange est exceptionnelle parce qu'elle va même jusqu'à confondre les adversaires de Dieu. Donc, pour dire que ce que des fois nous voyons ou nous entendons, des fois Dieu est loué par des choses invraisemblables à nos yeux, des cris des enfants, des pleurs des enfants. Or, c'est Dieu qui est loué à travers cela. Et ça nous montre combien nous qui avons conscience de la grandeur, de la magnificence et même de la gloire de notre Dieu qui s'étend sur toute la terre, nous ne pouvons pas nous taire quand nous nous réunissons, si ce n'est que d'élever et de glorifier ces grands dieux. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Nous ne pouvons pas nous taire devant ces grands dieux, les dieux tout-puissants. Même les enfants à la mamelle, même les enfants ou les bébés à la mamelle glorifient l'Éternel Dieu des armées. Je me souviens de ce monsieur qui me disait que lui ne croit pas en Dieu, mais il était tourmenté parce que son enfant, à l'école primaire, en première année, Elle revenait à la maison lui dire, « Papa, Jésus-Christ existe. » Alors, il va poser la question à sa femme. Il a parlé à Jésus-Christ. La femme lui dira, « Non. » Et le monsieur s'est dit, « C'est sûr que c'est à l'école. » Il a fait déplacer l'enfant de l'école où il était dans une autre école. Mais l'enfant a continué à lui dire, « Papa, Dieu existe. Quand est-ce que nous irons à l'église ?» L'Éternel est Dieu. Il tire sa gloire même par la bouche des enfants. Il est merveilleux et il confond tous ses ennemis. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, j'aimerais juste dire que ce verset-là, cette partie du verset 3, dont il est question des enfants, était cité par le Seigneur Jésus lorsque il est entré à Jérusalem et toute la ville était dans les mois, dont les enfants. Alors, les pharisiens, les scribes, tous ces grands, ont dit au Seigneur d'empêcher les enfants. Oui. Donc, le Seigneur a fait allusion à ce verset en citant même cette partie. Et ce que nous retenons de ce verset, c'est que le Seigneur a dit, si ces enfants-là se taisent, les pierres vont le remplacer dans la louange. Il n'a pas dit ça, mais c'est exactement ça. Vous, mais bon, donc c'est pour dire que notre Dieu, il est vraiment grand au point où toutes les créatures, quel que soit le genre de la créature, louent le Seigneur. Alors, si les petits-enfants, comme ont bien souligné les frères, louent, adorent de leur manière, à plus forte raison, nous qui sommes des êtres déjà raisonnables. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Ces petits-enfants louent le Seigneur à leur manière. Et même le Seigneur le dira, les passages dont le pasteur venait de soulever, dans Luc 18-17, « Je vous l'ai dit, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Parfois, nous sommes là, qu'est-ce que je vais dire? Comment m'exprimer? Dans quelle langue dois-je le dire? Mais un enfant, quand on lui dit de dire Jésus-Christ, il crie Jésus. Et s'il faut le prononcer tant de fois, il le fera. Et il accepte. Il sait que Jésus-Christ est bon, est sauveur. Il croit fermement à cela. C'est de là où nous devons être, nous aussi, en train de louer l'Éternel, de le magnifier, de voir ce qu'il a fait même en nous créant. Merci beaucoup. Frère Thomas, vous avez la parole, bien-aimé.
Creuser davantage avec le pasteur Joseph venait de dire et le pasteur Célestin, c'est que Dieu tire gloire des enfants. Le passage auquel il a fait allusion, Luc 19, 38 à 40, effectivement, Jésus-Christ, si les enfants s'étaient tus, les pierres le loueraient. Donc la nature loue le Seigneur. Et vous venez, le modérateur venait de nous dire encore qu'il faut être comme un enfant pour recevoir le royaume de Dieu. Mais un autre jour, le Seigneur a écouté les disciples, il s'est dit, qui est plus grand parmi eux? Il a appelé, il a pris un enfant, il a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit comme cet enfant. Mais l'autre jour encore, à Matthieu 11, Matthieu 11, donc, verset 25-26, avant que le Seigneur ne dise que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés pour vous donner le repos, le Seigneur s'est écrié comme ça pour parler à Dieu, le Père. Il a dit, Père, je te loue, je te remercie que qui a caché ces choses aux grands et qui les a révélées aux enfants. Donc ces enfants-là que nous voyons louer le Seigneur, parfois on voit un bébé en train de sourire comme ça. On ne comprend pas, tantôt il pleure, tantôt il sourit. Il voit des choses que Dieu cache aux grands que nous sommes et il les révèle aux enfants. Quel Dieu. Jésus-Christ a crié comme ça. Il a crié comme ça au Père. Dans le vide comme ça, il a dit, Père, je te loue que tu as choisi de faire ça comme ça. Avant de nous dire d'amener nos fardeaux pour qu'il nous donne du repos, le Seigneur a dit que Père, je te loue que c'est comme ça que tu as choisi ça. Il a parlé, à ce temps-là, la Bible dit, il prit la parole, dit, je te loue, Père, Seigneur, tiens. Et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu as choisi que ce soit comme ça pour ta bienveillance. Donc, je suis dans l'admiration que l'Éternel, pas seulement la nature, mais dans des bébés, il tire gloire, il tire l'adoration. Et moi qui suis grand, qui connais la parole, qui ai l'information, pourquoi je n'adore pas et je ne prie pas et je ne loue pas Dieu? Merci.
Amen. Merci beaucoup, frère Thomas, c'est profond. Moi qui suis grand, qui comprend, qui voit, pourquoi ne louerais-je pas l'Éternel Dieu grand? Si les enfants, parfois, vous les voyez sourire tout seuls et louent l'Éternel à leur manière, et pourquoi devrais-je me taire? Merci beaucoup, frère Thomas. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada.
Merci beaucoup, frère. Je ne sais pas si vous me capterez bien, je suis en chemin. Je voulais tout simplement dire, quand il est question de l'adoration, parfois, je me dis, moi comme bien d'autres aussi, nous saisissons pas toujours l'importance de l'adoration devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus était en tentation au début de son ministère, alors que le diable voulait qu'il s'agenouille devant lui pour l'adorer, le Seigneur lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce qui veut dire, si nous voyons l'ordre dans lequel les éléments se présentent, la manière que lui les présente, l'adoration précède le service. Dans le ministère, on est tellement préoccupé par ce qu'on doit faire pour Dieu, les différents services qu'on doit apporter, mais moins bien souvent nous sommes préoccupés par l'adoration. Mais dans la manière que le Seigneur le présente, c'est tellement important à ses yeux d'être glorifié, qu'il soit glorifié, ce qui veut dire que le service doit être la conséquence d'une bonne adoration. Lorsque j'ai vraiment adoré le Seigneur, donc le service est conséquent, donc il vient après l'adoration. C'est ce qui retient davantage mon attention tout le long de cette semaine, alors que nous pensons, nous méditons sur l'adoration. Et ça ne m'étonne pas que Dieu, même de la bouche des petits enfants, qu'il tire sa louange. Voilà, je voudrais en tout cas me focaliser aussi davantage sur l'adoration, comme je me focalise aussi sur le service que je rends à Dieu. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada. L'adoration précède tout service. Nous devons adorer l'Éternel Dieu des armées parce que nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui appartient ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. L'or, l'argent lui appartiennent. Le ciel et la terre lui appartiennent. Tout lui appartient. Et il nous a créés. Nous ne lui avons rien dit pour nous être créés à son image. Il a tout fait. Et il nous a tout donné. Abandonné où nous étions, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Il mérite l'adoration. Et quand nous voyons, quand nous contemplons les cieux, voyons l'ouvrage de ce que l'Éternel a fait. Comment c'est parfait. Il n'y a jamais eu de retard du côté du soleil, du côté de la lune. Jamais de retard. Les machines les plus perfectionnées du monde connaissent parfois des failles, mais non l'Éternel Dieu des armées. Contemplons ses œuvres. Autant marqué par son horloge, tout est mis en place. C'est magnifique et c'est merveilleux. Comme notre bien-aimé le disait, nous devons être que dans l'admiration. Et voilà pourquoi nous devons l'adorer de ce qu'il est. Il est magnifique. Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup encore une fois, mon frère. Frères et sœurs, le verset 4, nous pouvons dire que le modérateur l'a commenté en parlant de l'œuvre du Seigneur, l'ouvrage du Seigneur. Et je lis ces mots pour voir deux questions qui sont posées au verset 5. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Bien-aimé, le ciel, la lune, les étoiles et tout ce qui est là en haut nous étonne. Apparemment, ils sont plus grands que nous, pas pour rien que les anciens divinisaient le soleil, la lune, les étoiles. Et que sais-je encore? Parce que toutes ces créatures émerveillent l'homme. Oui, comme on ne connaît pas le Seigneur, on va adorer la lune, le soleil, malheureusement. Cet homme qui a écrit, c'est un homme qui croit en Dieu. Il se regarde par rapport aux astres, il dit, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Quelle est notre importance par rapport aux autres? Mais Dieu n'a pas regardé le ciel, la lune, les étoiles, les consorts pour s'intéresser comme il l'a fait et le fait pour l'homme, c'est-à-dire homme et femme, un être humain. Donc, bien aimé, la question de l'auteur ou de David ici est une question très importante que chacun et chacune de nous doit vraiment s'émerveiller. Lorsqu'il pense à ce grand Dieu qui a créé de grandes choses, mais s'est intéressé à l'homme que je suis, que tu es. Nous devons tout simplement tomber à genoux parce que cela nous dépasse. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Tout cela nous dépasse. Voyant toute la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cet après-midi à l'église, nous nous sommes dit l'un à l'autre, frère, je suis important parce que Dieu m'a dit que j'ai du prix et de la valeur devant ses yeux. Je suis important. Il nous a rendu important. Qu'avons-nous fait de spécial pour devenir important devant les yeux de Dieu? Qu'avons-nous fait de spécial pour devenir chrétien? Combien de personnes sont encore dans le monde? Qu'avons-nous fait de spécial pour que Jésus-Christ meure à notre place, abandonne son trône royal, descende? Même si j'étais seul, il allait descendre que pour moi. Qu'avons-nous fait de spécial? Bien-aimé, tout fils de Dieu, digne de ce nom, devrait louer Dieu. Parce que ce Dieu est devenu notre Père. Je pense que Jésus-Christ disait à Philippe, il disait, « Je vais vers mon Père, votre Père. » C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il nous a choisis pour devenir ses enfants. Et nous avons maintenant du prix et de la valeur devant ses yeux. Malgré ce que nous avons fait, il n'y a qu'à l'adorer et l'exalter. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous accordons la parole à notre bien-aimé frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Bien-aimé, je suis au verset 6. Ça répond à la question que l'orateur lui-même se pose. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et pourtant, Dieu a fait cet homme-là seulement un peu inférieur à Dieu. Et il a couronné l'homme de gloire et de splendeur. Et il va lui donner donc la domination de ses œuvres. Mais la gloire et la splendeur, verset 6, c'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains 5, 8, 10 et 6, Jésus qui est mort pour nous, Dieu a donné son Fils pour mourir à notre place. Et ce n'est pas seulement nous qui sommes devenus chrétiens et ceux qui vont le devenir, mais la possibilité d'être sauvé est disponible pour tout le monde. C'est formidable, frères et sœurs, que l'homme dont on parle ici a déçu l'homme, Dieu. Nous sommes tombés, tous ont péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais en dépit de cela, Dieu a donné son Fils pour que le monde ne périsse pas, mais qu'il vienne à la connaissance de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, pour que tout soit sauvé. Et Jean 3, 17, Jean-Baptiste va dire, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver par lui. Et quiconque croit à ce Fils, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il se tient condamné parce que il refuse l'unique moyen du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, je suis fasciné et je suis complètement impressionné que Dieu puisse nous aimer pendant que nous étions des pécheurs. Il a donné la solution en donnant Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité. Si les gens doivent aller en enfer aujourd'hui, si les gens doivent refuser le salut, c'est vraiment dommage parce que le prix a été payé et c'est possible. Même les gens de ISIS aujourd'hui, c'est possible que quelqu'un de ISIS qui tue les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ puisse être sauvé et devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ seul. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas. Devant cette gloire et la splendeur de l'éternel Dieu des armées, nous n'avons qu'à nous émerveiller. Je me souviens d'un frère que j'ai croisé quand je me rendais au campus pour Christ, sur le 14e rue. Il était aveugle et quand on le croisait, j'ai oublié même son nom, mais ce qui sortait de sa bouche, frère, tu sais, bien-aimé, Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout-puissant, aveugle. Mais il se rendait toujours aux réunions du campus pour Christ parce qu'il avait compris ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Et il était là que pour adorer l'Éternel, l'exalter. Il avait des versets bibliques qu'il lisait avec l'écriture braille. Et il était dans la joie. Et quand je le voyais, je disais, mais moi qui vois, qui a tout, pourquoi ne devrais-je pas aussi louer l'Éternel, l'adorer comme ce bien-aimé est en train de l'adorer? Nous n'avons devant cette présence de l'Éternel, nous n'avons qu'à l'adorer, à l'exalter. Et à l'adorer et à l'exalter dans la sainteté aussi, parce que celui-là que nous adorons, il est trois fois saint. Les adorateurs qui s'approchent de Dieu, nous devrons aussi nous approcher dans la sainteté, parce qu'il est trois fois saint. Merci, nous donnons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci encore, papa Gaston, pour la parole. J'ai fait un pas en arrière au verset 4. Notre frère David, celui qui écrit ce psaume, dit: « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles, donc il contemple le ciel, il contemple les étoiles, il contemple la lune que tes mains ont disposée. » Et une des questions qui nous est posée dans cette méditation, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et là, c'est vraiment un exemple à suivre parce qu'il nous montre que c'est tellement beau et merveilleux à créer que, ayons cette habitude de contempler aussi ce que Dieu a fait. Nous sommes dans un pays merveilleux. Quand il neige et que vous voyez tout est blanc, les arbres, les routes, au-dessus des toits, il faut être anormal pour ne pas dire et voir les merveilles de notre Dieu. Donc, il y a tellement de choses que Dieu a faites que nous devons contempler. Le peuple de Dieu, nous ne pouvons plus nous taire pour contempler les merveilles que Dieu a créées. Amen.
Amen. Le peuple de Dieu, nous ne pouvons plus nous taire pour contempler les merveilles que l'Éternel Dieu des armées a créées. Et nous manquons de paroles, nous pouvons nous taire que lorsque nous adorons l'Éternel selon notre imagination. Notre imagination est limitée. Mais il y a des paroles, lorsque nous contemplons, nous adorons l'Éternel Dieu des armées selon sa parole. Selon ce que dit, ce que la parole nous dit de ce que Dieu est. Il est magnifique. Il est le tout-puissant. L'unique est le vrai créateur de visible et invisible. Il est le souverain de toutes les puissances, de tous les rois de ce monde. Oh non, il est magnifique. Selon sa parole, nous voyons qu'il est l'alpha et l'oméga. Selon sa parole, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Non, on ne peut pas se taire quand on sait que nous sommes les rachetés de Jésus-Christ et que c'est Dieu que nous adorons. Il est devenu notre Père et qu'un jour nous le verrons. Un jour nous serons avec lui ensemble. Il y a à élever nos voix et à l'adorer, à l'exalter devant cette harmonie et cette magnificence. Merci, nous donnons la parole à notre bien-aimé frère Thomas.
Bien-aimé, je m'excuse d'intervenir encore. C'est-à-dire, je suis touché que Dieu a mis les animaux sous
la domination de l'homme, pas les humains, mais les animaux. Il dit que au verset 7 et 8, il a mis tout sous les pieds de l'homme. Les brebis, les bœufs, les bêtes de champ, les oiseaux, les poissons. Tout Dieu a mis sous le contrôle de l'homme. Je me rappelle, avant que je me marie, j'avais un chat, ensuite un autre chat. Mais deux fois, je suis venu à la maison. On a dit que ton chat, on l'a mangé. Les gens du coin ont tué le chat, on l'a mangé. J'ai payé encore un autre. On l'a mangé encore, les gens. On dit, il nourrit les chats et nous, nous mourons de faim ici. On a tué les chats, on l'a mangé, on les a mangés. Et ici, je suis venu, la même, mes filles ont dit, deux de mes filles ont dit, achète-moi un chien, achète-moi un chien. J'ai dit non, parce que on nourrit les chiens dans ce pays et tout ça, alors que les gens souffrent. Moi, je dois nourrir les gens qui sont en ville et contre. Pourquoi on nourrit les chiens? Mais nous croyons ici que c'est différent. Frères et sœurs, Jonas, la Bible dit, le livre de Jonas termine par ces versets. Dieu a dit à Jonas, il a dit ceci. Le dernier verset du livre de Jonas dit, Jonas était fâché pourquoi Dieu pardonne les gens de Ninive. Et Dieu dit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer ni leur droite ni leur gauche et un grand nombre de bêtes. Dieu avait sauvé même les bêtes parce que les bêtes de Ninive avaient jeûné. Vous vous rappelez que le roi a dit, on ne mange pas les hommes comme les bêtes. Et Dieu se soucier des hommes-là avec les bêtes. Parfois, nous oublions, surtout nous les Africains, nous oublions que les bêtes sont aussi à notre contrôle. Et nous plaignons que les Blancs, ils s'occupent des chats, des chiens et tout ça. Mais Dieu contrôle ces êtres. Nous devons nourrir. Si nous prenons un chien que nous avons à la maison, il faut dépenser. C'est la nature, il faut garder, il faut gérer. Il faut prendre soin parce que Dieu a mis même ces animaux-là sous notre contrôle. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimé. Dieu a mis toutes choses sous notre contrôle et que nous sachions comment les gérer. Et le frère a dit quelque chose d'important aussi. Nous avons à contrôler, à dominer sur les animaux et non sur les hommes. Quand vous partez chez des guérisseurs, des féticheurs, ils vous donnent des gris-gris pour dominer d'autres personnes. Mais nous avons l'autorité de dominer sur les animaux et sur les puissances des ténèbres et non sur notre semblable créé à l'image de l'Éternel Dieu des armées. Sachons gérer ce que Dieu nous donne et les glorifier de tout ce qu'il fait. Quand nous voyons les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, nous avons qu'à dire que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout-puissant. Pourquoi il est tout-puissant? Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est lui qui nous l'a lavé dans le sang de son Fils pour que nous soyons propres à nous tenir devant son trône et sans aucune audience. Et c'est lui qui prend soin de nous. Quand nous dormons, qui prend soin de nous? Quand nous sortons, qui prend soin de nous? Et il y a des combats multiples auxquels même nous ne sommes pas au courant. Mais lui, il est en train de délivrer ces combats-là pour nous, pour que nous puissions obtenir ce dont notre cœur désire. Ce Dieu-là, c'est notre papa. Il est notre papa. Si je le loue, ce n'est pas parce que, non, je vais l'adorer pour que je puisse obtenir. Non, il a tout accompli. Mon travail, les services, les rôles que je dois jouer, c'est tout simplement l'adorer de ce qu'il est. Il est juste, il est amour, il est miséricordieux, il est tout puissant, il est magnifique. Et la nature même, il a mis la nature à notre disposition, les animaux à notre disposition. Tout ce dont nous avons besoin, quand nous voyons l'harmonie de la nature, la pluie tombe, après quelques temps, c'est le soleil pour chasser l'eau qui était asséchée et pour rendre encore la terre encore plus praticable. Tout cela, personne ne lui dit que Seigneur, papa, regarde, il a plu abondamment, qu'il y ait du soleil. Il le fait. Il le sait. À tel endroit, il pleut, à un autre, il fait chaud. Tout cela, c'est dans l'harmonie pour que l'homme, les rachetés de Jésus-Christ, nous puissions l'adorer, l'exalter et le magnifier. Notre Dieu est grand, bien-aimé. Sachons l'adorer. Sachons l'adorer, l'exalter de tout notre cœur. Parce que Dieu ne regarde pas seulement les apparences, mais il regarde le cœur. Parfois, nous adorons Dieu. Nous sommes dans l'assemblée. C'est comme on nous pousse. Gloire à toi, Seigneur. Mais du dedans de mon cœur, je ne suis pas convaincu. Du dedans de mon cœur, ce sont des paroles qui s'envolent, des paroles volatiles. Non, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre énergie, de tout notre être, que nous puissions adorer ce Dieu magnifique, ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est présent au milieu de nous, nous qui sommes sur le plateau à ce moment, et nos bien-aimés qui nous suivent à la radio et qui nous suivront aussi en différé. Dieu est au milieu de nous. Il nous a créés à son image. Et si nous sommes vivants à ce moment, c'est tout simplement pour l'adorer. Parce que dans les séjours des morts, il n'y a plus cette adoration. Nous sommes vivants pour l'adorer. Contempler sa magnificence. Nous allons lire les commentaires du jour. Je vais les lire. La création fragile adore Dieu. Grandeur du nom divin. Dans l'Ancien Testament, le nom décrit le caractère ou la nature d'une personne est étroitement lié à sa présence. Le nom de Dieu est magnifique et digne de nos louanges. En invoquant son nom, nous recherchons sa présence et nous l'adorons. Dignité de l'homme. Les louanges des enfants peuvent sembler faibles et simples, mais sont suffisantes pour contraindre au silence les ennemis de Dieu. Dieu choisit les êtres les plus faibles pour confondre les forces hostiles. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Ce qui est merveilleux, c'est que le grand Dieu propose une alliance à l'homme, si petit et si faible, et que c'est dans l'absolu de sa petitesse, l'enfance, qu'il se révèle comme le plus grand. Reconnaissons-nous la position de dignité que Dieu nous donne, faisant de nous des êtres uniques parmi toutes les créatures. Contemplation. Puissions-nous prendre le temps d'adorer Dieu en contemplant l'immensité du ciel, réalisant sa puissance. Sommes-nous conscients que nous sommes les fils et les filles de Dieu, créés à son image, qu'il a placé toutes choses sous notre responsabilité et que nos actes ont de l'influence sur la terre et la mer et des conséquences sur la vie animale. Comme des bons intendants, prenons soin de la création de Dieu en l'honorant et en l'adorant. Action. Adorons Dieu à travers les noms que nous employons pour lui. Jésus qui sauve, Emmanuel, Dieu avec nous, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Seigneur, Christ, Messie, Oint, etc. Voilà, bien-aimés, c'est par ici que nous arrêtons. Nous demandons au pasteur Célestin de nous donner des annonces, et surtout pour les camps bibliques qui s'annoncent déjà. Et à la fin, nous demanderons au pasteur José des États-Unis de bien nous recommander entre les mains de notre Dieu.
Oui, merci frère Gaston pour la parole. Donc, juste saluer le frère et sœur d'Alberta, de Massachusetts, et aussi de North Carolina qui ont été avec nous. Donc, concernant les camps, j'espère que tout le monde dans la famille est sensibilisé, que nous préparons un grand événement où nous allons nous rencontrer tous ensemble en Belgique. Nous prions et nous avons besoin de la contribution de tout le monde sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Amen.
Mais merci beaucoup, pasteur José des États-Unis.
Oh. Prions le Seigneur bien-aimé. Dieu de gloire, Dieu de magnificence, nous exaltons ton nom. Ton nom est glorieux. Nous te remercions de tout notre cœur pour le message de ce soir et le message de cette semaine. Ce message nous montre qui tu es et qui nous sommes. Nous avons le devoir de t'adorer, Seigneur. Quand nous considérons tout ce que tu as fait, nous ne pouvons que t'adorer. Nous t'adorons infiniment pour nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes petits par rapport, par exemple, à l'éléphant, mais l'homme est capable de dompter l'éléphant parce que tu nous as donné cette mission-là de dompter les autres natures, sauf l'homme. L'homme doit vivre dans l'amitié et dans la fraternité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Seigneur, fais de nous des êtres qui suivent la ligne que tu as tracée pour l'homme. Nous ne devons pas être de ceux qui massacrent les autres, qui vilipendent les autres êtres humains, qui ne les considèrent pas, parce que nous avons étudié, nous avons de l'argent, nous vivons avec les Blancs, c'est comme si les Blancs n'étaient pas les êtres humains. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour la façon dont nous vivons. Nous sortons de ta ligne de conduite. Et ce soir, tu nous montres. Tu dois aller ici. Et nous devons vraiment suivre ce que tu nous dis dans ta parole. Nous devons montrer aussi aux autres qui ne savent pas qui tu es et qui ne savent pas aussi leur place sur cette terre. Oui, Seigneur, tu nous as fait la grâce de connaître le Seigneur Jésus, celui qui nous a donné la vraie humanité. Nous sommes devenus tes enfants, tes fils et tes filles, grâce à notre foi en Jésus. Et cette foi nous a été donnée, nous n'avons rien fait. Ce que nous pouvons faire tous les jours, c'est de t'adorer. Merci, notre Père. La semaine est là, la semaine de travail, la semaine d'études. Et nous te confions cette semaine. Nous te confions, nous confions nos vies, nos personnes, nos biens, tous les nôtres qui sont avec nous ou qui vivent ailleurs. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous. Nous avons besoin de ta bénédiction. Et d'ailleurs, tu nous as créés et tu nous as bénis dès le commencement. Et cette idée n'est pas enlevée. Cette idée reste de bénir l'homme et la femme. Bien-aimé, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Bien-aimés, les passages de demain, c'est dans Ésaïe, chapitre 6, 1 à 8, avec la question 2 et 3. Bonsoir à tous.